Bien, bonsoir à tous et à toutes pour cette première conférence du 15. Cette année, le thème était non pas un chapitre 15 d'un livre biblique, mais un thème un peu transversal qui va nous emmener du premier au dernier livre de la Bible, du livre de la Genèse au livre de l'Apocalypse, du serpent au dragon. Et nous allons voir aussi comment ce serpent, il se faufile un petit peu, eh bien, à travers toute la Bible pour réapparaître sous forme d'un dragon dans le livre de l'Apocalypse. Mais aujourd'hui, nous allons nous attacher à sa première apparition dans la Bible, au chapitre 3 du livre de la Genèse. Alors, si on voulait être sérieux, il faudrait d'abord lire le chapitre qui précède, le chapitre 2, parce que les chapitres 2 et 3 vont ensemble. Il y a le récit de la création, de l'homme, de la femme, et puis il y a la première loi que Dieu pose en plaçant l'homme dans un jardin. Donc, on va lire verset par verset. Le premier verset, « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur avait fait. » Voilà que l'homme qui a été placé dans le jardin avec la femme, voici qu'un personnage, on ne sait pas trop d'où il vient, il est extérieur, et pourtant c'est un animal qui parle, chose assez curieuse, on le verra, il est qualifié comme le plus rusé de tous les animaux des champs. On a eu, dans le chapitre précédent, la mission de l'homme qui était de nommer justement les animaux pour manifester sa domination sur le monde animal. Et là, c'est un animal qui est le plus rusé. Rusé, c'est un terme en hébreu qui veut dire nu aussi. Le plus nu de tous les animaux. On pourrait traduire aussi le plus astucieux. En tout cas, il a cette caractéristique et on va voir comment cette caractéristique se manifeste. C'est sûr que le terme, on va voir qu'il va peu à peu se charger d'une charge négative, mais au début, c'est pas forcément quelque chose, voilà, de... Qu'est-ce que ça veut dire nu, rusé? En fait, c'est le texte qui va nous le faire découvrir. Donc, on est en présence de ce serpent. Que va-t-il faire, ce serpent? Nous le voyons. Déjà, l'écho avec celui de l'Apocalypse. « Oui, il fut rejeté le grand dragon, le serpent des origines. » Celui qu'on nomme Diable et Satan, le séducteur du monde entier, il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Il faut attendre le dernier livre de la Bible pour avoir un verset qui nous dit que le dragon et le serpent, finalement, c'est la même engeance. On est dans une continuité et là, le livre de l'Apocalypse le dénonce avec son nom, Diable ou Satan, les deux termes qui sont utilisés dans le livre de l'Apocalypse. Il fut jeté sur la terre. Effectivement, on le voit à l'origine de la création, ici en présence de l'homme et de la femme, jetés sur la terre. Continuons. Voyons maintenant l'action du serpent. Le serpent va s'adresser à la femme. Souvenez-vous, l'homme a été créé, Dieu a donné à l'homme le commandement concernant les arbres du jardin, on y reviendra, et après seulement a été créée la femme. Il va s'adresser à cette dernière, la dernière venue d'une certaine façon. Alors Dieu vous a vraiment dit, il se fait curieusement le porte-parole de Dieu, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons les fruits des arbres du jardin, mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Vous avez vu que tout l'enjeu c'est manger. Manger ou ne pas manger, ça va être le but ultime du serpent. Pourquoi veut-il faire manger? Parce qu'il y a un interdit. Et c'est cet interdit qui est aussi le signe de la confiance que Dieu a en l'homme, puisqu'il a placé tous les arbres dans le jardin, mais il a placé une loi. Et vous avez vu la manière dont le serpent va formuler son intervention. Vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. C'est-à-dire qu'il va déformer la parole de Dieu. Et il se fait, ce qui est plus grave, le porte-parole de Dieu. Donc ça va jouer sur l'image de Dieu. Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun. Une formulation négative, ça va jouer sur un ressort psychologique qui s'appelle la frustration. Vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. Déjà, la manière dont il fausse l'image de Dieu, c'est pour faire finalement un Dieu qui empêche de manger, de se nourrir, d'accéder à l'essentiel. Un Dieu qui devient source de frustration. Et naturellement, il va falloir s'en libérer. Donc, il va jouer sur cette ambiguïté. Le but, d'ailleurs, c'est énorme. Vous ne mangerez pas, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. On verra que le commandement de Dieu n'était pas du tout formulé de ce type-là. Mais c'est volontairement provocateur. Et c'est ce qu'il cherche, le serpent. Si il n'est pas provocateur, la provocation, ça a pour objectif de faire répondre. Et le but, c'est que la femme réponde au serpent. Si elle ne lui répond pas, la tentation ne peut pas se poursuivre. Vous avez noté que le serpent, c'est l'animal qui s'entortille. D'ailleurs, dans les représentations, on le voit entortillé. Pour faire son chemin, là, il faut qu'elle commence par lui répondre. À partir du moment où elle lui répond, eh bien, il va continuer son chemin. Et elle lui répond en voulant défendre Dieu d'une certaine manière. Nous mangeons, formulé de façon positive, les fruits des arbres du jardin, mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit. On ne sait pas d'ailleurs qu'est-ce qui est l'arbre au milieu du jardin, de quoi elle parle. Pour le moment, il n'y a pas de mention de tel ou tel arbre. Et Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Est-ce que Dieu a dit vraiment ça? Regardons exactement dans le chapitre qui précède, le verset. Le Seigneur Dieu donna à l'homme cet ordre. Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voyez la déformation. Il faut toujours comparer le texte à son interprétation. Il y a toujours des petits décalages. Et c'est dans ces petits décalages, c'est dans les fentes du rocher que se cache le serpent. Et il va jouer là-dessus. Il va jouer sur l'ambiguïté, il va jouer sur la frustration pour créer la confusion et susciter la convoitise. Vous voyez sa stratégie? Eh bien, elle est assez claire. L'ordre de Dieu, on le retrouve où finalement? Eh bien, on le retrouve simplement dans le chapitre qui précède. Il faut aller le lire à la source. Et l'ordre de Dieu, il est formulé de manière positive. Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin. C'est-à-dire qu'il fait totalement confiance à l'homme à qui il laisse la possibilité de toucher à tous les arbres du jardin. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, formulé de façon négative, pour le protéger, parce que si tu en manges, tu mourras. C'est-à-dire que la limite qu'il pose à l'homme, c'est la limite qui permet de protéger sa propre vie. C'est-à-dire que non seulement il ne frustre pas l'homme, mais il lui met la possibilité de choisir, ou en tout cas, il a la possibilité dans ce jardin, s'il enfreint cette limite, de mourir. Or Dieu, dans son commandement, met tout à la disposition de l'homme, ça montre sa confiance et la liberté qu'il laisse à l'homme, mais il lui pose une limite, la limite qui structure, et la limite qui permet la vie. Sans limite, il n'y a plus de vie possible. Alors, vous me direz, petite parenthèse amusante, le serpent, c'est un animal qui parle. C'est curieux, vous ne trouvez pas? Il y a des animaux qui parlent. Il y a l'âne, vous savez, de Balaam, qui parle. Et je me souviens, c'était une sortie avec les enfants de 6e de l'aumônerie il y a quelques années, puis je parle de ce texte. Et une petite fille me pose simplement la question, mais comment elle a compris, Ève? Elle ne parlait pas serpent, effectivement. Ça veut dire qu'un animal qui parle, eh bien témoigne, ou en tout cas reflète un petit peu quelque chose de l'animalité de l'homme. N'oubliez pas que l'homme devait nommer les animaux, c'est-à-dire faire l'exercice de sa raison sur l'animalité aussi qu'il y a en lui. Or là, le serpent prend la parole. Et vous avez vu qu'il a ce qu'il voulait, à savoir la réponse. Remarquez l'ordre de Dieu. Il a dit, tu n'en mangeras pas. Remarquez ce que dit Ève. Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas. Dieu n'a jamais dit, vous n'y toucherez pas. Ça aussi, c'est une façon de déformer très légèrement la parole du Seigneur en rajoutant un interdit qui n'est pas là. Dieu n'a jamais dit, vous n'y toucherez pas. Autre procédé du serpent pour faire apparaître les commandements de Dieu comme insupportables. Finalement, déformer ou en tout cas faire en sorte que l'homme parce que c'est ça, c'est elle, c'est Ève qui va formuler ce commandement, en rajoutant une exigence qui n'existe pas. Et c'est là-dessus, finalement, dans cette première déformation, dans ce premier décalage, que va se jouer, eh bien, la suite. Poursuivons notre texte. Le serpent reprend la parole et dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » C'est terrible ça. Il reprend la parole et là c'est l'image de Dieu. C'est-à-dire Dieu est un concurrent. Dieu n'est plus l'ami proche de l'homme, il devient le concurrent de l'homme. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Là, il dit, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Comme des dieux. Le projet initial de Dieu, c'est pas ça. Il a créé l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et là, là encore une déformation. Connaissant le bien et le mal. Cet arbre de la connaissance du bien et du mal, il manifeste justement ces limites que Dieu met à l'homme. Cette limite nécessaire qui fait en sorte que dans la création, l'homme ne peut pas se mettre à la place de Dieu pour décider ce qui est bien et ce qui est mal. Mais pour que l'homme décide ce qui est bien et ce qui est mal, il est obligé de se mettre à la place de Dieu. Donc Dieu est un concurrent, donc il faut supprimer Dieu. C'est bien le but du serpent. Le serpent, dès que l'homme est détourné de Dieu, il a gagné, il n'a plus rien à faire. Il peut partir, ça y est. Le tout, c'est que l'homme qui se rapproche de Dieu puisse en être détourné. Combien plus à l'origine? Voilà comment finalement est mis en lumière dès l'origine sa manière de procéder. Dieu sait, donc Dieu est un concurrent. Dieu est celui qui vous empêche de vivre pleinement, qui vous empêche de connaître. C'est intéressant, j'avais une jeune en première, toujours à l'aumônerie, dont le professeur de philosophie avait expliqué avec beaucoup de brio comment justement les récits bibliques empêchaient les hommes d'avoir accès à la connaissance. Parce que justement, ils n'avaient pas le droit de connaître le bien et le mal. Dieu les empêchait et que les religions... Eh bien, je lui dis, tu pourras dire à ta professeure qu'elle est le serpent. Elle tient exactement le même langage que le serpent. Dieu nous empêche de connaître le bien et le mal, de vivre pleinement, de décider, d'être libre. Et c'est exactement ce que fait le serpent. Dieu est un concurrent à la vie. C'est à vous de décider, c'est pas à lui. Alors que c'est pas un choix arbitraire, cette connaissance du bien et du mal, c'est ce qui protège l'arbre qui est au centre du jardin, qui est l'arbre de vie. Il n'en parle pas de l'arbre de vie. Là, c'est l'arbre de la connaissance. Et là, vous voyez, quand il a faussé cette image de Dieu dans l'esprit de la femme, il a fait l'essentiel. Maintenant, il n'aura plus grand-chose à faire. Ça va faire son processus. C'est le processus de la tentation ou de la suggestion. Il va y avoir le dialogue, qui est la deuxième. Il ne faut jamais dialoguer avec la tentation. Et puis, petit à petit, ce qui va se produire, le consentement, le passage à l'acte. Quand c'est un acte bon, eh bien, le fruit de l'acte, c'est la joie. Mais là, l'acte est un acte de désobéissance. Et on verra que les conséquences sont tout sauf la joie promise pourtant par Dieu. Remarquez ce qui se passe dans l'esprit de la femme. Là, c'est le narrateur qui parle, celui qui raconte le récit, qui a accès à ce qui se passe dans la tête de la femme. La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux. Bon à manger encore. Vous avez vu comment tout tourne autour de ça. Manger ce fruit. Elle l'avait peut-être pas remarqué, il y avait je ne sais pas combien d'arbres. Là, elle se met à focaliser sur cet arbre. Il devait être savoureux. Pourquoi? Ben ça, c'est le serpent qui a induit ça en elle. Qu'il était agréable à regarder, savoureux, agréable à regarder, désirable. On voit que c'est le désir qui est en train de grandir pour cet arbre. Or, c'est un désir qui est orienté contre le commandement de Dieu. Et ce désir, il a un nom, ça s'appelle la convoitise. C'est-à-dire que le serpent va attiser la convoitise chez la femme. Puisqu'il donnait l'intelligence. Ah, le bien de l'intelligence. L'intelligence, finalement, devient le bien désirable. Mais de quelle intelligence, finalement, parle-t-on? On parle d'une intelligence qui permet de discerner, ou alors là, d'une connaissance qui finalement ne conduit pas à la vie. Voilà comment, dans le texte hébreu, on retrouve bien que eh bien, cet arbre était effectivement, il avait belle apparence, il était désirable à manger, et qu'il donnait aussi eh bien, cette intelligence, cette capacité, finalement, à connaître le bien et le mal. Ça fait son chemin. Pour le moment, dans cette toute première partie, on est encore dans la convoitise et le désir. Mais on voit qu'il y a un processus qui est enclenché. Et ce processus, elle ne pourra plus l'arrêter. Le serpent n'a plus besoin d'intervenir à partir du moment où la convoitise est en route. Il suffit qu'elle fasse son chemin. La volonté est peu à peu comme anesthésiée devant la convoitise. Ça aussi, c'est un, je dirais, c'est un, une très fine connaissance de la psychologie humaine. Les récits bibliques manifestent bien comment, à partir du moment où la convoitise est là, c'est bien le but de la publicité, susciter la convoitise. Après, rendre le plus simple possible l'acte d'achat. Elle prit de son fruit et en mangea. Vous voyez les deux gestes. Prendre, c'est-à-dire enfreindre ce qu'elle appelait le commandement, vous n'y toucherez pas. Et puis elle se dit, à partir du moment où je l'ai touché, je peux enfreindre le second commandement. Vous savez, c'est des phénomènes, hein, au point où j'en suis. Bon, ben voilà. Il y a un phénomène d'entraînement et d'enchaînement qui fait que, à partir du moment où la convoitise est en route, la volonté décline, la lucidité, et paradoxalement, ce qui est obscurci aussi, c'est l'intelligence, la capacité de discerner. Elle prend de son fruit, là elle aurait pu encore s'arrêter. Mais plus on avance, moins on peut s'arrêter. Et là, elle en mange. Conséquence. Et vous voyez qu'il y a comme un quelque chose qui va se passer après. Elle en donna aussi à son mari et il en mangea. J'aime bien parce que la phrase est très, très courte, très simple, et pourtant, elle peut poser beaucoup de questions. Est-ce que le mari sait d'où vient ce fruit? Il n'a pas eu le dialogue, est-ce qu'il est au courant ou pas? Le texte ne le dit pas. Il fait pleinement confiance puisqu'il prend le fruit et il en mange. Est-ce que c'est la convoitise qui l'a attiré ou qui l'a poussé? Pas forcément. Vous voyez, il y a eu un rapport entre ce que Dieu a donné à l'homme, le commandement. La femme avait entendu le commandement, c'est l'homme qui lui a dit. Est-ce que c'est l'homme qui lui avait dit « vous n'y toucherez pas » ou est-ce que c'est la femme qui l'a rajouté? Puisque finalement, la femme a eu accès au commandement de Dieu par l'homme, puisque le commandement a été donné entre le fait que la femme soit tirée de la côte de l'homme. Donc il y a forcément une transmission de la loi qui a été faite, on ne sait pas comment. Elle l'avait entendu, cette loi, puisqu'elle a repris les paroles de Dieu. Si elle a été transmise fidèlement, il y a cette relation de confiance. A priori, elle a été transmise exactement comme Dieu l'a transmise. Elle, le serpent, l'a fait un peu déformer. Et après, elle va rentrer dans une relation, mais qui est faussée avec son mari. Ce qu'elle donne à son mari, c'est quoi? C'est le fruit de la transgression. Donc la confiance va permettre de recevoir quelque chose qui est pourtant source de mort. La convoitise est vraiment source de mort. Voyez ce que Saint Jacques dit dans l'épreuve de la tentation, que personne ne dise « ma tentation vient de Dieu ». Dieu, en effet, ne peut être tenté de faire le mal. Et lui-même ne tente personne. Chacun est tenté par sa propre convoitise qui l'entraîne et le séduit. Puis la convoitise conçoit et enfante le péché, et le péché, arrivé à son terme, engendre la mort. Cette phrase de Saint Jacques, qu'on a entendue d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, reprend les termes du commentaire que vous venez d'entendre, c'est-à-dire la convoitise. Vous avez vu, conçoit et enfante. Ces deux termes qui sont propres, eh bien, aussi à la mission de la femme, de concevoir et d'enfanter. Sauf que là, elle enfante pour la mort, puisqu'elle enfante le péché. Et le péché arrivé à son terme, engendre, c'est curieux, de l'engendrement. Le terme pose question quand même, engendre la mort. Comme s'il y avait un espèce de processus inverse au processus de la création. Un processus qui va vers la mort. Mais là encore, la responsabilité, c'est la convoitise. Chacun est tenté par sa propre convoitise. Vous voyez pourquoi, d'une certaine manière, ce serpent qui parle, il est aussi le reflet de ce qui, en l'homme, est cette part d'animal qui va le détourner. Certes, c'est une sollicitation extérieure, mais après, qui va faire son chemin. Continuons le texte. Alors, dernière partie, leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils attachèrent les unes aux autres des feuilles de figuier et ils s'en firent des pagnes. La première conséquence, c'est effectivement leurs yeux s'ouvrent, vos yeux s'ouvriront. Mais pas sur une connaissance particulière, mais sur une relation qui est désormais faussée. Juste le verset qui précédait, la fin du chapitre 2, disait exactement « Tous les deux, l'homme et la femme étaient nus et ils n'en éprouvaient aucune honte l'un devant l'autre. » Là, il y a eu quelque chose de faussé. Pourquoi ? Parce que la convoitise, justement, s'est introduite entre l'homme et la femme. Donc la relation entre l'homme et la femme a été faussée. Et qu'est-ce qui va protéger désormais cette relation ? Ils ne peuvent plus être nus l'un devant l'autre. C'est ces feuilles de figuier avec lesquelles ils se font des pagnes. Il y avait une belle tradition dans le judaïsme qui disait finalement, avant il y avait un vêtement pour Adam, mais c'était un vêtement de lumière. Et il a perdu ce vêtement de lumière avec le péché. Saint Paul parlera aussi d'un nouveau vêtement qu'on revêt au-dessus de son vêtement. N'est-ce pas ce vêtement de gloire qui avait été porté à l'origine ? Tous deux, l'homme et la femme, étaient nus et ils n'en éprouvaient aucune honte l'un devant l'autre. La honte s'est ainsi introduite par le péché. Il n'y a plus cette innocence naturelle. Le rapport de la convoitise va fausser le rapport désormais entre l'homme et la femme. On pourrait dire que c'en est la première conséquence du péché originel. Et puis, si nous allons beaucoup plus loin, il y a d'autres yeux qui s'ouvrent. J'aime beaucoup ce tableau avec ses grands yeux ouverts. Vous savez, ce sont les disciples d'Emmaüs. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Vous voyez comment il y a un écho de ces yeux qui s'ouvrent à la suite du péché et comment à nouveau les yeux peuvent s'ouvrir pour reconnaître celui qui sauve du péché, mais qui à ce moment-là disparaît du regard. Voyez comment il y a cet écho aussi par rapport au péché des origines et au salut apporté là par le Christ ressuscité. Continuons. Et puis, après le péché, comment va se passer la relation avec Dieu ? Ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. L'homme et sa femme allèrent se cacher au regard du Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. Ils entendent une voix. Vous avez noté qu'il parlait de Dieu, le serpent, pas du Seigneur Dieu. C'est pas tout à fait pareil. Dieu, ça peut être la divinité. C'est plus un Dieu personnel. Le Seigneur Dieu, c'est le nom du Dieu qui se révèle. D'un Dieu personnel, d'un Dieu qui est en relation avec l'homme. C'est beaucoup plus facile, finalement, de transgresser un commandement qui vient d'un Dieu impersonnel. C'est un Dieu énergie, raison suprême qui donne des commandements, ça ne veut pas dire grand-chose. Si c'est un Dieu personnel, un Dieu en relation, un Dieu qui fait alliance, là, on sent que c'est quelque chose, eh bien, qui a plus d'importance. Il est là à la brise du jour. On verra qu'il y a un écho dans la manière dont Dieu se manifeste. Et puis la première chose qu'ils font, c'est se cacher du regard du Seigneur. Ils se cachent l'un à l'autre au regard de l'un à de l'autre, puisqu'ils se font des pagnes, et ils veulent se cacher aussi. C'est curieux comment il y a un sentiment qui donne besoin de se cacher. C'est quoi ce sentiment ? C'est la honte finalement. Et ça nous rappelle la manière dont Dieu se manifeste, vous savez, au prophète Élie, et après Ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu, et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Ça montre aussi toute la douceur, la délicatesse de Dieu. Là aussi, une lecture erronée serait nous dire « Oh là là, là les... l'homme et la femme ont péché, ils ont transgressé, Dieu arrive comme un juge qui va donner sa sentence et condamner. » Pas du tout. Il arrive comme quelqu'un qui se promène dans un jardin, une proximité, aucunement une menace. Et pourtant, ils perçoivent Dieu comme une menace. Là aussi, on voit que le travail du serpent, c'était pas que faire manger le fruit. Il y a d'autres conséquences, il y a d'autres dégâts collatéraux. Et le plus grave, probablement, celui que le serpent visait ultimement, c'est fausser dans le cœur de l'homme l'image de Dieu. Et ça, vous verrez que toute l'œuvre du serpent, c'est ça. Et là, ils ont besoin de se cacher. Se cacher, c'est une manière de ne pas assumer ce que l'on a fait. Un enfant qui a fait une bêtise, ses parents arrivent, il a envie d'aller se cacher parce qu'il a peur de ses parents s'il a fait une bêtise. Il y a eu quelque chose de faussé dans la confiance que fait Dieu. Pour eux, maintenant, c'est un concurrent, c'est un juge, donc il faut se cacher. Continuons. Alors le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu donc ? J'ai entendu ta voix dans le jardin. » Il répondit, pardon. « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Le Seigneur reprit « Qui donc t'a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» L'homme répondit « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme « Qu'as-tu fait là ?» La femme répondit « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. » Regardons la première partie. Le Seigneur Dieu appelle l'homme. « Où es-tu donc ?» Cette phrase « Adam, où es-tu ?» il y a une très belle méditation que je vous invite à aller voir, que je voulais mettre ici mais c'était un petit peu long, du pape François lorsqu'il est passé au mémorial de la Shoah à Jérusalem, qui s'appelle Yad Vashem. Il a fait une très belle méditation « Adam, où es-tu »« Qu'as-tu fait de ton humanité ?» Où es-tu tombé, etc. Et c'est beau cette question, où es-tu ? C'est-à-dire que le péché fait que l'homme n'est plus à sa place. Il n'est plus image et ressemblance qui était voulue par le Créateur. Il y a quelque chose qui en lui a été défiguré, qui a été blessé. Et l'homme va avouer déjà sa peur. J'ai pris peur parce que je suis nu. Nu, c'est toujours le même terme, aroum, en hébreu, qui voulait dire rusé. C'est le même mot hébreu. C'est-à-dire, je suis rusé aussi. C'est-à-dire, je suis un peu comme le serpent. Je suis devenu à l'image de ma convoitise. Et c'est pour ça que je me suis caché. C'est-à-dire, je ne vis plus dans la lumière. Je ne vis plus sous le regard de Dieu. Se cacher de Dieu, c'est vouloir échapper à ce regard, mais d'une certaine façon aussi à la miséricorde qui aurait pu s'exercer. Le Seigneur reprit, « Qui donc t'a dit que tu étais nu ?» C'est-à-dire le fait d'être nu et le fait d'en avoir honte ne peut être que la conséquence d'un acte qui ne vient pas de l'homme. « Qui donc t'a dit ? Aurais-tu mangé ?» Il voit la source et il identifie la cause de cette peur, de ce mal-être, de ce besoin de se cacher. Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ? Là, il va directement. As-tu transgressé l'interdit ? La question est suffisamment précise pour préciser l'aveu. Et la première œuvre de miséricorde que Dieu va permettre à l'homme de faire, c'est de trouver sa faute, de l'avouer et de l'assumer. Se cacher, c'est ne pas vouloir assumer sa faute. Donc on voit que dès que Dieu apparaît dans le jardin, d'une certaine manière, est en route un processus de salut pour Dieu. Et pour l'homme, enfin, de Dieu pour l'homme. L'homme répondit, « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. » Ce besoin, finalement, de remonter d'où ça vient. Là, il va accuser, finalement. accuser la femme que tu m'as donnée. Il accuserait presque Dieu. La femme que tu m'as donnée, c'est toi qui me l'as donnée, cette femme. T'as vu où ça nous a conduit? C'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. C'est curieux la manière aussi dont il a, comme on se dit, de se défausser de sa responsabilité sur l'autre. Ça aussi, c'est un phénomène. Il va falloir qu'il assume. Le salut n'est possible qu'à partir du moment où il est capable d'assumer l'acte qu'il a fait. S'il n'est pas capable d'assumer cet acte, le salut ne sera pas possible pour lui. Donc, on voit que le Seigneur Dieu va s'adresser à la femme. « Qu'as-tu fait là ?» La femme répondit « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. » Là, c'est beau ce que dit la femme, parce que c'est exactement ce qu'elle a fait. La cause, le serpent m'a trompé, elle reconnaît, et j'ai mangé. Elle assume. C'est beau ça aussi quand on parle de la confession, être capable de dire exactement ce qui s'est passé. Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. Là, il va pouvoir y avoir la sentence, la conséquence, mais qui sera une sentence aussi de salut pour l'homme et la femme. Même si ça prendra, dans l'histoire de l'humanité, tout le processus qui nous conduira jusqu'au Christ. Mais il y a désormais, à partir du moment où la faute est reconnue, quelque chose qui va permettre à l'homme et la femme, même dans des conditions différentes, de poursuivre leur vie sur cette terre. Donc, on peut continuer. Voyez un commentaire de Saint Ambroise, je ne pouvais pas faire moins, qui est un beau commentaire. Il y a des commentaires des pères de l'Église, en collection sur ce texte. C'est un des plus commentés, parce qu'un des plus riches aussi pour comprendre tout le mystère de la grâce, du salut, etc. Et Saint Augustin est assez sévère contre la femme. Je trouve que Saint Ambroise a une vision plus positive. « Le serpent m'a trompé, dit la femme, et j'ai mangé. La faute est pardonnable quand elle est suivie de l'aveu du péché. Cette femme ne cache pas son péché. Elle l'avoue à Dieu, et la sentence que Dieu porte est une sentence médicinale. Il est bon d'être condamné dans le péché. Le cas de Caïn est plus grave, car il nie à son crime. Aussi Dieu ne le jugea-t-il pas digne de recevoir sa pénitence. La femme reconnut son péché, et cela lui fut compté pour le pardon. Nul ne peut être justifié de son péché s'il ne le confesse d'abord. Et l'Écriture enseigne, avoue tes iniquités, afin d'être purifié. Dieu jugea que la femme était pardonnable, car il savait que le serpent avait mille moyens de la tromper, lui qui se transforme en ange de lumière. » Je trouve que c'est un très beau commentaire, une très belle lecture de cette petite phrase de la femme qui finalement va montrer que comme un malade peut décrire sa maladie et peut ainsi recevoir le traitement du médecin, eh bien le pécheur qui avoue son péché peut recevoir le traitement médicinal de sa propre guérison. Continuons le texte. Les sentences après. Alors le Seigneur dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête et toi, tu lui meurtriras le talon. Nous voyons que là, il y a les conséquences de l'acte composé d'abord le serpent en trompant, et puis on verra après pour l'homme et la femme. D'abord, il s'adresse au serpent. Le serpent, il est maudit. C'était un mot en hébreu, arour. C'est pas que Dieu maudisse, c'est parce que le serpent a fait ça, il devient maudit. Ce qui est maudit, c'est ce qui s'oppose à ce qui est béni. Ce qui est béni, c'est ce qui grandit, ce qui est fécond, ce qui se déploie. Ce qui est maudit, c'est ce qui se replie sur soi-même, parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Donc déjà, il va avoir un destin particulier parmi les animaux, ce serpent. Il va en quelque sorte eh bien, symboliser, matérialiser la convoitise et même de façon plus générale le péché. On a vu comment dans le livre de l'Apocalypse, il était même associé à la figure du diable ou de Satan. La conséquence, tu ramperas sur le ventre, l'humiliation, et tu mangeras de la poussière. La poussière, c'est ce qui rappelle la mort. C'est la condition humaine dans ce qu'elle a de plus bas. Et je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. On voit que ce qui s'est joué là va concerner finalement toute l'histoire de l'humanité, avec les lectures bien sûr chrétiennes de la femme et du serpent qui meurtrit la tête et toi tu lui meurtriras le talon. Ça a été amplement commenté par les pères de l'Église et par toute la spiritualité chrétienne pour la figure de Marie qui écrasait la tête du serpent, qui était aussi le signe de celle qui, voilà, la femme qui triomphe définitivement du mal. Mais cette hostilité entre toi et la femme, c'est aussi une protection d'une certaine manière, un espace. Il ne veut pas assimiler la femme au serpent. Vous avez remarqué dans le premier tableau, eh bien, le serpent, non seulement a un visage de femme, mais si vous regardez bien, il ressemble à Ève. Et Dieu veut distinguer, vous voyez, le serpent de la femme. L'homme n'est pas réductible à son péché. Et cette hostilité, elle montre aussi cette distance nécessaire que la femme doit prendre avec ce qui a été la cause de sa chute. Et le combat durera tout le temps. La femme a la possibilité, avec sa descendance, de meurtrir la tête, mais le serpent aussi. Il y a une hostilité. C'est-à-dire, c'est le serpent, cette convoitise, c'est ce qui va faire du mal à l'homme. Cette convoitise, c'est ce qui va être à l'origine, finalement, de tous les conflits, de tout ce qui va fausser les relations entre l'homme et la femme, entre un frère et son autre frère, ça va être l'histoire de Caïn et Abel. La jalousie, la convoitise. On va retrouver, c'est ce que disait Saint Jacques, c'est par la convoitise qui engendre le péché, et le péché engendre la mort. Et on voit qu'il y a quelque chose qui concerne la vie du serpent, on dirait ses fonctions vitales, le fait de ramper sur le ventre, et quelque chose qui concerne la relation avec les autres. Continuons les sentences. D'abord, il y a les échos, vous voyez, que Dame soit un serpent sur la route, une vipère sur le sentier qui mord le cheval au talon et son cavalier tombe à la renverse. C'est au chapitre 49, verset 17 de la Genèse où on retrouve ce lien entre le serpent et le talon. Et puis cette phrase du psaume 41, même l'ami qui avait ma confiance et partageait mon pain m'a frappé du talon. C'est un psaume, en tout cas pas formulé exactement de la même façon, mais très proche, que l'on retrouve dans la bouche de Jésus au moment de la trahison de Judas. Vous voyez l'image du talon, le talon comme ce qui menace, et ce rapport avec le serpent. Il y a aussi, dans Saint Jean, vous voyez, ce n'est pas de vous tous que je parle, moi je sais quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que s'accomplisse l'écriture, celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Et puis, le Seigneur va parler à la femme. Vous voyez, il parle à l'homme, l'homme dit c'est la femme dit c'est le serpent. Et les sentences vont tomber après dans l'ordre inverse. D'abord le serpent, et puis la femme. La femme, je multiplierai la peine de tes grossesses, c'est dans la peine que tu enfanteras des fils. Ton désir te portera vers ton mari, et celui-ci te dominera sur toi. Il dit enfin à l'homme, prenons d'abord là aussi ce qu'il dit à la femme. Ça concerne aussi, je dirais, les fonctions vitales dans l'engendrement, à savoir multiplier la peine de tes grossesses, tu enfanteras dans la peine. C'est la conséquence. Dans sa mission première, soyez féconds, multipliez-vous, il y aura cette peine qui va, cette souffrance, cette épreuve qui va s'introduire dans, je dirais, ses fonctions vitales du corps. Et puis la deuxième sentence va concerner les relations entre l'homme et la femme. Le désir te portera vers ton mari et celui-ci dominera sur toi. Il y a quelque chose aussi dans le rapport entre l'homme et la femme qui va être faussé, comme une conséquence, justement, d'un désir qui n'est pas forcément un désir ajusté, un désir qui a été faussé par le serpent. Il dit enfin à l'homme, « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé le fruit de l'arbre que je t'avais interdit de manger, maudit soit le sol à cause de toi. » C'est terrible, ce sol qui était fait pour porter finalement tous les fruits du jardin pour le bien de l'homme. La conséquence du péché de l'homme a des conséquences pour la terre entière. On est déjà dans les, finalement, dans ce que nous vivons aujourd'hui sur les questions écologiques. Hein. Et Benoît XVI a des textes très forts en montrant ce lien qu'il y a entre le péché de l'homme et les désastres sur notre planète. Il parle de la désertification du cœur de l'homme. Eh bien, se traduit, se manifeste dans les désertifications de beaucoup de secteurs, de territoires sur notre planète. Tu as écouté la voix de ta femme et tu as mangé le fruit de l'arbre que je t'avais interdit de manger. C'est à lui aussi, eh bien, qui va porter peut-être une responsabilité. Il lui rappelle le chef d'accusation, à savoir, tu as mangé le fruit de l'arbre que je t'avais interdit de manger. Tu as transgressé. Tu as transgressé, d'où les conséquences. C'est dans la peine que tu en tireras du sol ta nourriture tous les jours de ta vie. Ça, on retrouve le parallèle par rapport à la peine avec laquelle la femme enfantera, donc ce qui touche à son travail, à son corps, à sa vie. Tu auras ta nourriture en cultivant les champs. Ce sol, il te donnera épines et chardons. C'est à la sueur de ton visage que tu gagneras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre dont tu proviens, car tu es poussière, et à la poussière tu retourneras. On voit que l'homme avait été modelé de la terre, et il y avait en lui insufflé ce souffle de vie, venu de Dieu. Mais par sa transgression, eh bien, il est destiné désormais à retourner à cet état, pour que le salut soit possible. Tu es poussière et à la poussière tu retourneras. Ça paraît souvent comme une sentence un petit peu de condamnation. Tu n'es rien, tu es que de la poussière et tu deviendras de la poussière. On peut l'entendre aussi comme un nouveau commencement. Tu viens de la poussière et tu vas retourner à la poussière, mais pour quelque chose de nouveau. Mais tu seras obligé de repasser par cette étape.
On va continuer.
Le livre de la Sagesse nous dit « Or Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui une image de sa propre identité. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. » Ils en font l'expérience, ceux qui prennent parti pour lui. On voit bien que le but du serpent est atteint. Détourner l'homme de Dieu. Voir comment ce péché y joue sur le fait de grossir les limites. Il fait disparaître le don au profit des limites et des interdits. Comment il jette le soupçon. Ça, c'est toute l'ambiguïté du langage, comment il transforme petit à petit les mots pour changer la vérité, et comment, ultimement, il fausse l'image de Dieu. D'un ami bienveillant, il va faire un concurrent dangereux. Le dénouement. L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Le Seigneur Dieu fit à l'homme et à sa femme des tuniques de peau et les en revêtit. Puis le Seigneur Dieu déclara, « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous par la connaissance du bien et du mal. Maintenant, ne permettons pas qu'il avance la main, qu'il cueille aussi le fruit de l'arbre de vie, qu'il en mange et vive éternellement. » Là, on pourrait se dire, tiens, c'est curieux, on a l'impression que Dieu est jaloux de ses prérogatives. Maintenant, méfions-nous de l'homme. Ça serait une fausse lecture. Au contraire, maintenant, finalement, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était celui qui protégeait l'arbre de vie. À partir du moment où il a mangé de ce fruit, eh bien, c'est la vie qui est menacée. Or, Dieu veut protéger la vie. Et il veut que l'homme vive éternellement. Donc, il ne veut pas que l'homme mette la main sur la vie, c'est-à-dire s'approprie la vie, devienne le maître de la vie. Sinon, il ne pourra pas vivre éternellement. Donc, Dieu le renvoie du jardin d'Éden pour qu'il travaille la terre d'où il avait été tiré. Il expulsa l'homme et il posta à l'orient du jardin d'Éden les kéroubim armés d'un glaive fulgurant pour garder l'accès de l'arbre de vie. C'est beau d'ailleurs, c'est pas pour interdire l'accès de l'arbre de vie, c'est pour le garder. C'est d'abord préserver la vie de la folie de l'homme. Dieu veut protéger l'homme contre lui-même. Parce que sinon, s'il met la main finalement sur la vie, il s'autodétruit, il se détruit lui-même. Dieu veut que la vie continue à être possible. Mais, à cause de la convoitise, il y aura cette conséquence de, finalement, du fait que l'homme et la femme ont besoin de cette tunique. Vous avez vu cette tunique de peau dont l'homme et la femme sont revêtus. La nudité, c'était le symbole aussi de la confiance, de la vulnérabilité. Là, il y a une sorte de protection qui est mise, une distance, aussi pour protéger l'un et l'autre de la convoitise. Les tuniques, le vêtement, protègent de la convoitise. La pudeur protège de la convoitise. Voilà pourquoi aussi il y a ces tuniques de peau qui rappellent aussi l'animalité de l'homme. Souvenez-vous cette tradition dont je parlais tout à l'heure, du vêtement de lumière. L'homme était fait pour le vêtement de lumière, il aura un vêtement de peau d'animal. Ben dans sa condition humaine, finalement, ce que décrit eh bien, toutes ces sentences et ces conséquences, c'est la condition humaine telle qu'elle est. Et dans cette condition humaine, de la mort, de la douleur, des souffrances, de la convoitise, certes c'est présent, mais Dieu préserve la vie, Dieu garde l'accès de l'arbre de la vie, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Alors le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol, il lui insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Vous avez vu que ce dernier verset il vient exactement en écho avec ce verset du chapitre précédent. Dieu planta un jardin à l'Éden, et à l'Orient, il y plaça l'homme qu'il avait modelé. Là, l'homme va être chassé de cet environnement d'origine pour lequel il avait été créé, justement pour le protéger contre lui-même. Et dans la lettre aux Galates, dans le Genèse, pardon, le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous voyez tous les échos qu'on trouve par rapport au chapitre qui précède. Au centre, c'est bien l'arbre de vie. Voyez comme quoi il faut lire avec attention tout ce qui est dit dans le chapitre précédent, qu'on relit après, maintenant avec cette connaissance, et on peut voir tout ce qui a été faussé, tout ce qui n'a pas été dit. On pourrait reprendre maintenant tout le chapitre 3 pour voir comment le serpent ne les nomme pas, comment il donne l'impression qu'au centre c'est pas la vie mais la connaissance du bien et du mal. Une sorte de toute puissance de la raison, de l'intelligence humaine, avec des guillemets, puisqu'elle n'est plus éclairée par celle de Dieu. Et puis, le serpent et Ève, oui, mais c'est l'humanité.
Il a dit de ne pas manger de l'arbre qui est au milieu.
Oui.
Mais c'est l'arbre de vie qui est au milieu, c'est pas l'arbre de la connaissance.
Oui, mais justement, il a inversé les deux.
C'est Ève qui inverse.
Ben, c'est le serpent qui fait en sorte qu'Ève inverse. Mais le serpent, dans sa ruse, inverse les choses.
C'est le serpent.
C'est-à-dire qu'il place au centre
C'est Ève qui mélange, ou alors Adam lui a mal dit.
Mais il dit, le serpent m'a trompé.
Le serpent m'a trompé, c'est-à-dire le serpent a inversé les choses.
Quand elle répond, Ève, elle dit que Dieu a dit de ne pas manger de l'arbre qui est au milieu du jardin. Mais ce n'est pas ce qu'a dit Dieu.
Oui, mais justement, c'est le travail du serpent, c'est que l'ordre de Dieu est déformé. Mais j'ai bien peur qu'à l'exemple d'Ève, là c'est dans la deuxième aux Corinthiens, séduite par la ruse du serpent, votre intelligence des choses ne se corrompe en perdant la simplicité et la pureté qu'il faut avoir à l'égard de Dieu. Voyez que ce récit va être repris aussi dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Voilà. J'aimerais finir sur, avant de passer au dragon, un autre passage où on parle d'un serpent, c'est dans le livre des Nombres. Vous connaissez cette histoire du serpent de bronze. Ils quittèrent hors la montagne par la route de la mer des roseaux en contournant le pays d'Édom. Mais en chemin, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit : Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse : Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent du bronze, il restait en vie. C'est curieux, ce serpent qu'on retrouve, il est associé cette fois au peuple quand le peuple récrimine. La récrimination du peuple, c'est sa volonté de retourner en arrière, c'est-à-dire de ne pas rentrer dans l'œuvre de salut de Dieu. Et c'est là où les serpents interviennent, qui sont source de mort. Mais à partir du moment où le serpent devient serpent de bronze élevé sur un mât, il devient, d'une certaine manière, la mise en lumière du péché de l'homme. C'est-à-dire qu'il est dénoncé. Ce n'est plus un serpent qui peut se cacher et qui peut tromper l'homme en l'entortillant, mais un serpent qui est devenu visible en bronze, donc d'une certaine manière inoffensif, mais dont l'image, et l'image d'un serpent, elle est pourtant répugnante, hein, eh bien l'image révèle à l'homme la vérité de son péché. Voilà pourquoi Jésus reprendra cette image du serpent, de même que le serpent a été élevé, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. C'est-à-dire que quand le Fils de l'homme est élevé, c'est le Fils de l'homme défiguré sur la croix, qui renvoie à l'homme l'image de son péché, c'est-à-dire que le péché défigure l'homme. Et comme il n'avait plus visage humain, dit le prophète Isaïe, il manifeste, comme dit saint Paul, qu'il s'est fait lui-même péché. Il a pris sur lui le péché jusqu'à ne plus avoir visage humain pour sauver l'homme. Voilà, nous verrons l'œuvre, si je puis dire, ou les dégâts du dragon lors d'une prochaine séance le 15 mars.